Vous m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir et c'est parti pour une nouvelle semaine de culture en version confinement. Dans un instant, un trio jazzy qui revisite à sa façon quelques-uns des grands mythes de l'Antiquité grecque, notamment autour de la guerre de Troie, avant que notre correspondante Marie Billon ne nous présente une grande dame quasiment inconnue du grand public et qui est pourtant au cœur de l'actualité. Elle s'appelle Florence Nightingale et c'est elle qui est à l'origine d'un geste très à la mode en ce moment, le lavage des mains pour raisons d'hygiène et de santé. On va peut-être en parler d'ailleurs avec notre premier invité. Il est rappeur, il est sénégalais et il fait partie du mouvement Y'en a marre. Il est en ligne avec nous de Dakar, au Sénégal. Bonjour Simon Kouka.
Bonjour.
Alors en cette période sanitaire très compliquée, comment ça se passe en ce moment à Dakar ?
À Dakar, bon, la situation est un peu inquiétante parce que au niveau des cas communautaires, ça augmente de jour en jour. Hier, on a atteint un chiffre record d'une trentaine de personnes contaminées, 35 plus précisément, 34 contacts suivis et un contact communautaire. C'est très compliqué.
Ça veut dire que les mesures de restriction ne sont pas respectées, qu'il y a trop de rassemblements dans les rues de la capitale sénégalaise ?
Il y a trop de rassemblements au niveau des marchés. Les gens continuent à faire comme si de rien n'était, alors que voilà, il y a un ennemi invisible qui est là parmi nous. Donc les lieux publics sont bondés de monde. On a beau sensibiliser, on va arriver à un stade où, au niveau du ministère de la Santé, ils vont être débordés. Et là, on risque de faire comme la plupart des pays qui vont se retrouver avec plus de 1000 cas, ce qui n'est pas encore le cas, bien sûr, ici, mais bon.
Oui, alors justement, vous participez vous-même à cette sensibilisation, comme d'autres figures du mouvement Y en a marre. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ?
Nous, on a commencé par une chanson. Les artistes ont fait une chanson de sensibilisation parce que beaucoup, au début, ne croyaient pas à cette maladie. Et il y avait beaucoup d'intox aussi. Les gens disaient qu'avec la chaleur, le virus ne survivait pas, que les Noirs étaient immunisés, etc. Ce genre d'intox, il y avait énormément d'intox. Donc, on a fait un morceau pour un peu dire aux gens, écoutez, c'est bien réel, c'est là, faites attention. Et voilà quoi, ça arrive à tout le monde, ça n'a pas de distinction de race. Après, on est passé à la vitesse supérieure. On a commencé à faire des capsules pour mieux expliquer aux gens par rapport aux gestes barrières. Garder la distance de sécurité dans des lieux publics, marchés, boulangeries, etc. Parce qu'ici, il y a des queues énormes. Avec le couvre-feu à 20h, dès 17h, les boulangeries commencent à se remplir. Tout le monde veut sa baguette de pain et les gens ne respectent pas les gestes barrières. Donc, on a commencé par des petits sketchs comme ça. Après, on a commencé la sensibilisation avec des camions sonos. Voilà, à deux maximum sur les camions, à sillonner les marchés, les lieux publics pour dire aux gens, écoutez, respectez les gestes barrières. Si vous n'avez rien à faire dehors, si vous ne travaillez pas, restez chez vous.
Et ça marche, Simon Kouka, les jeunes que vous avez rencontrés sont sensibles à ce travail de sensibilisation ?
Oui, beaucoup de jeunes sont sensibles et beaucoup de jeunes même reprennent après dans leur localité. Quand on a fait la capsule par rapport aux boulangeries, quand on a fait le tour des boulangeries pour demander aux gens de respecter la distance sociale de 1 mètre, on a vu beaucoup d'associations le reprendre un peu partout au Sénégal, dans les quartiers, dans les localités. Et on sent que voilà, les jeunes sont réceptifs. Mais il faut pas s'arrêter au fait parce que il y a des relâchements. Tantôt, on voit que les gens respectent et 2 jours, 3 jours après, c'est retour à la normale et ce qui n'est pas du tout admissible.
Est-ce que ça signifie, Simon Kouka, que pour vous, si les choses continuent ainsi, il faudrait rendre un jour le confinement obligatoire ?
C'est vrai que dans les pays comme les nôtres, c'est très difficile. Les gens vivent le jour. Les gens, voilà, ce qui travaillent aujourd'hui, c'est ce qui mangent quasiment en soirée. Que ce soit les mamans qui vendent des cacahuètes, des mangues, que ce soit ceux qui vont au marché. C'est un peu ce système-là au Sénégal. Mais avec l'allure où les choses sont en train de se passer, il y a une semaine, on était à 200 cas. Une semaine plus tard, là, on en est à 400 cas. Donc, ça commence vraiment à partir dans tous les sens. Donc, arrivé à un certain moment, il faudra vraiment penser à confinement en général.
Donc, inquiétude, hein, effectivement, pour vous, Simon Kouka, à Dakar. Pour terminer, peut-être, Simon, pour passer cette période difficile, est-ce que vous pourriez nous conseiller un livre, une chanson ou un film, je ne sais pas, qui pourrait, justement, à la fois nous occuper la tête et nous faire réfléchir?
Je pense au morceau de Youssoupha, Espérance de vie, que j'écoute beaucoup et que, voilà, qui m'inspire beaucoup.
Merci beaucoup Simon Kouka d'avoir été en ligne avec nous et bonne journée malgré tout chez vous à Dakar. Merci.
Appelle-moi Yous, on se connaît. Prims, on se connaît. Lyriciste band, tous mes enfants, tout on se connaît. Blackbird, pap, tout de partout, on se connaît. Parle-nous d'amour avant de nous parler.
Et retour à Paris avec vous, Amélie Beaucourt, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Alors cette semaine, Amélie, vous nous proposez de la bande dessinée à la maison. Ça tombe bien parce que, faut-il le rappeler, 2020, c'est justement l'année de la BD et qu'avec le confinement, non seulement on a l'occasion d'en lire, mais aussi de se mettre dans le corps d'un dessinateur ou d'un scénariste. Pour l'occasion, vous avez déménagé, Amélie, m'avez-vous dit, dans un appartement que vous avez vous-même dessiné avec vos feutres et crayons de couleur.
Et oui Jean-François, tout a commencé sur Twitter il y a quelques semaines, une discussion par tweet interposée entre la dessinatrice Pénélope Bagieux et le créateur de jeux vidéo Oscar Barda lance l'idée d'un cadavre exquis dessiné où chacun crée sa maison idéale de confinement et la partage sur les réseaux sociaux via le hashtag CoronaMaison. Cette tour en papier fait aujourd'hui plus de 1200 étages, elle est donc 7 fois plus grande que le plus haut gratte-ciel au monde, et son architecte s'appelle Tim. Il est dessinateur de BD lui aussi, et c'est lui qui a créé le modèle d'appartement vierge que tout le monde peut compléter à sa guise.
Ça génère pas mal d'angoisse en fait, le confinement, parce que mine de rien, quand il fait peau dehors et qu'on n'a pas le droit de sortir, ça crée une énorme frustration. Hein. C'est pour ça qu'on a vu des dessins de gens qui cassent les murs, qui font des vitrées immenses, qui font rentrer la nature, qui creusent une piscine dans le sol. Ça libère vraiment l'imagination de tout le monde, que ce soit des enfants qui savent pas très bien dessiner jusqu'à des gens des fois qui ont 50, 60 ans. Enfin, comme la pièce est complètement vide et qu'il y a juste un escalier à gauche, ça permet vraiment toute la liberté et tout le monde peut remplir ce qu'il veut, un peu comme une sorte de défouloir mais positif. Donc je pense que le succès c'est le côté vraiment cathartique du truc et en même temps très accessible.
Pour continuer l'expérience, je décide de participer à l'opération Toute la France dessine, lancée par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image début avril. Chaque semaine, un auteur reconnu remplit les deux premières cases d'un strip que chacun peut compléter comme il l'entend. Pour en discuter, je décroche le téléphone que j'ai dessiné dans la Corona Maison et j'appelle le scénariste Jules, qui a lui-même participé à l'opération.
La bande dessinée, ça concerne tout le monde, en fait. La dimension un peu universelle et surtout transgénérationnelle est vachement riche. Ça fonctionne aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. Et quand on est tous enfermés dans un même appartement, alors qu'on est obligé de se redécouvrir, on n'a pas l'habitude de vivre ensemble. En fait, les enfants vont à l'école, les parents vont au travail. Et là, ça fait quelque chose qui peut être partagé.
Cette semaine, c'est Catherine Meurice qui propose de compléter le scénario suivant. Deux pangolins discutent, verre de vin à la main, de la première chose qu'ils feront à la sortie du confinement. Et des initiatives comme celle-ci, il en existe d'autres.
Il y a quelqu'un qui a commencé ça un petit peu en marge de cette opération, sur ses propres réseaux, c'est Lewis Trondheim, moi que j'adore, et son personnage de Lapino en fait, il fait un gag et il faut deviner le gag que lui avait en tête. Donc il faut essayer de se mettre dans sa tête, et non pas ses cours à son imagination. Enfin, j'ai été tenté de le faire justement pour le défi, mais en fin de compte, comme je pense que beaucoup de gens qui écoutent cette émission le savent, ne rien faire prend énormément de temps et donc finalement j'ai pas eu le loisir de m'y mettre.
Et si vous n'avez pas pensé à dessiner une imprimante dans votre Corona Maison ou si vous n'avez pas taillé vos crayons de couleur, il suffit de vous munir d'un smartphone ou d'un ordinateur pour réaliser votre propre bande dessinée. La Bibliothèque Nationale de France a mis en place une application gratuite et téléchargeable partout dans le monde, elle s'appelle BDNF, et elle permet de créer en quelques clics une planche de BD en y dessinant vous-même à l'intérieur des cases, en important vos propres images ou en piochant dans un choix immense d'archives numériques. Yanis Koikas, chef des espaces multimédia de la BNF.
On a fait appel à un jeune illustrateur qui nous a développé des contenus spécifiques à la BD. Donc on se retrouve à la plage, à la montagne, dans un château, dans une ville, dans un jardin. Et puis par ailleurs, on a développé une API pour les taper dans Gallica. C'est la bibliothèque numérique de la BNF. Et Gallica aujourd'hui, c'est 6 millions de documents. Donc on s'est dit, entre ce qu'on a développé spécifique pour la BD et puis toutes les œuvres du patrimoine français ou international qu'on retrouve dans la bibliothèque numérique de la BNF, les gens vont avoir une foultitude de décors, de personnages, pour pouvoir raconter des histoires avec. En fait.
Et en attendant de pouvoir vous rendre en librairie ou en bibliothèque, il est possible de commander des albums sur certaines plateformes ou d'en consulter gratuitement sur le site des maisons d'édition.
Et si vous aussi vous voulez dessiner votre Corona Maison, compléter le strip de Catherine Meurice ou réaliser votre propre bande dessinée, rendez-vous sur les pages Facebook et Twitter de VMDN. Merci Amélie. Ils sont trois, comme les juges des enfers, Éac, Radamante et Minos, comme les Moires, Clotho, Lachésis et Atropos, ou comme les Érinies, Tisiphone, Mégère et Alecto, mais aussi comme les Gorgones, les Grées, les Charites, les Heures et les Hespérides, sans parler bien sûr de la triade Zeus, Poséidon, Hadès, qui se partage le monde, des trois têtes de Cerbère ou de l'hydre de Lerne. Vous l'avez compris, c'est peu dire que le chiffre 3 est omniprésent dans la mythologie grecque. Rien de plus logique donc que ce soit un trio, en l'occurrence un amphitrio, qui s'en inspire pour mettre en scène un premier album qui ne pouvait s'appeler autrement que Cheval de Troie. Pierre Baldi-Moulinier, Sylvain Félix et Nicolas Frache sont avec nous et vous m'en direz des nouvelles. Pierre Baldi-Moulinier, Sylvain Félix, Nicolas Frache, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. C'est avec les Forges d'Héphaïstos que nous commençons cet entretien. Et c'est assez évident de commencer d'ailleurs par la forge, puisque la forge, c'est l'atelier, c'est l'endroit où l'on chauffe, où l'on donne forme à l'objet. Ici, l'objet, c'est donc ce premier album du trio que vous formez. Comment a-t-il été formé, justement, ce trio, amphitrio, Pierre Baldi-Moulinier?
Alors, c'est un trio qui existe depuis un an et demi maintenant, que j'ai souhaité réunir autour de moi des amis musiciens avec lesquels je travaillais dans d'autres contextes. Et pendant longtemps, j'ai écrit pour des grosses formations, plutôt pour big band. Et là, je souhaitais me concentrer sur une écriture avec beaucoup moins de musiciens, mais des musiciens polyinstrumentistes. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Sylvain et Nicolas.
Voilà, vous êtes tous de la région lyonnaise, je crois.
Oui, tout à fait. Ouais.
Alors, vous êtes justement tous polyinstrumentistes, nous disait Pierre Baldi-Moulinier. Est-ce que vous pouvez nous dire chacun, en une minute chrono, quelques mots sur votre parcours et sur les différents instruments que vous maîtrisez? On va peut-être commencer avec vous, Sylvain Félix.
Ok, ben alors moi je joue du coup dans cet album et en général tous les saxophones, donc soprano, alto, ténor, baryton, et puis la clarinette basse aussi.
Alors vous, Nicolas Frache, vous avez plusieurs cordes à votre arc aussi.
Oui, si on peut dire, donc je joue de la guitare électrique et puis de la basse électrique aussi, voilà.
Alors j'ai lu que vous êtes un incorrigible touche-à-tout, c'est comme ça qu'on vous présente dans le dossier de presse qui accompagne l'album, ça veut dire que vous avez fait plein de choses?
Oui, ça veut dire que effectivement, je navigue dans plusieurs eaux, troubles et moins troubles. En fait, c'est une manière de dire que je fraye aussi bien avec le milieu de la chanson française que du spectacle pour enfants, que du jazz, du rock, du rhythm and blues. Voilà, même la salsa avec un autre big band. Voilà, donc je navigue un peu dans différents styles. Voilà,
vous avez travaillé avec l'Opéra de Lyon. Vous avez créé aussi un conte musical inspiré d'un livre d'Éric Orsenna, je crois.
Voilà, tout à fait, avec la compagnie Sacasson, il y a une conteuse et puis on est deux guitaristes pour illustrer ce roman qui s'appelle Tour du monde en 9 guitares, pardon.
Voilà, donc parcours extrêmement diversifié de ces deux polyinstrumentistes. Et le troisième polyinstrumentiste et compositeur d'ailleurs, c'est vous, Pierre Baldi-Moulinier. Alors vous, comme Sylvain Félix, vous êtes dans les vents.
Oui, je joue les cuivres, donc trompette, trombone, petit tuba et puis flûte également.
Alors vous avez deux passions, la musique et la gastronomie aussi, je crois que vous pouvez nous en dire un petit mot.
Oui, en effet, c'est une autre de mes passions. D'une part, j'aime bien goûter, bien sûr, les aliments, mais j'aime bien aussi cuisiner. Et avec le big band que je dirige, qui s'appelle le Big Band de l'œuf, on vient de créer un spectacle qui s'appelle Petit Plat pour Grand Ensemble et qui réunit sur scène un grand big band et puis un chef qui cuisine en direct.
Donc énormément de cordes à vos arcs respectifs, énormément de passions. C'est fréquent avec ce genre de musiciens comme vous l'êtes, Sylvain Félix, d'avoir des parcours aussi riches, aussi variés, d'être multi-instrumentiste avec un parcours finalement quand même relativement classique, non ?
De mon côté, en tout cas, un parcours aussi avec plein d'aventures autour de plein de musiques différentes, effectivement, le jazz, le rock et aussi les musiques des Balkans,
mais,
de mon côté.
Mais vous n'avez pas eu envie, les uns et les autres, de vous cantonner à un seul instrument. C'était important pour vous de pouvoir jouer avec différents supports.
Et c'est important pour nous. Ah pardon, allez, vas-y Nicolas.
Eh bien, en fait, je crois que ça s'est fait un petit peu par la force des choses. En ce qui me concerne, moi, j'ai commencé petit la guitare comme un petit enfant qui commence la guitare sans trop savoir quoi chercher. Et puis, petit à petit, je me suis, au gré des rencontres des professeurs, je me suis ouvert au rhythm and blues, même, pour citer quelques noms, Santana, voilà, des choses très, très rock et à la fois métissées. Et puis, le parcours jazz, en fait, puisque on a la chance d'avoir des écoles qui ont un cursus jazz comme l'ENM de Villeurbanne ou le conservatoire à Lyon. C'est vers ces parcours-là que je me suis dirigé puisque c'était une manière d'ouvrir encore un peu plus les oreilles, la culture. Et puis je crois que ce qui me ressemble, c'est la multitude de choses. J'ai du mal à me cantonner à un seul style parce que j'éprouve beaucoup de manque par rapport... Si je me faisais que de la chanson, j'éprouverais du manque par rapport à l'improvisation. Si je faisais que de l'improvisation, le côté parole me manquerait. Voilà. Donc j'ai besoin de tout ça pour me sentir bien.
Oui, c'est vraiment le côté polymorphe aussi qui vous réunit tous, Pierre Baldi-Moulinier. Pourquoi est-ce que vous teniez tant justement à ce genre de profil pour ce trio?
Alors, c'était aussi pour pouvoir avoir une grande diversité de timbres et puis la possibilité d'écrire pour des formats différents. Le trio, c'est comme pour un tabouret, c'est un équilibre. Ça commence à être équilibré quand il y a trois pieds. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir varier les timbres et cette chance-là d'avoir à mes côtés des polyinstrumentistes le permet.
Cheval de Troie, Amphitrio sur RFI et sur la pochette de l'album éponyme, comme on dit, est dessiné justement un cheval, mais un cheval de Troie cabré, hein, pas du tout fixe ou à roulette comme on a parfois l'habitude de le voir dessiné. Vous pouvez nous décrire un petit peu la pochette, Pierre Baldi-Moulinier?
Oui, alors c'est donc en effet une symbolisation du cheval que j'ai demandé à une amie artiste qui l'a faite avec du bois flotté qu'elle a après peint. Et l'idée c'était de faire un cheval en mouvement parce que c'est vrai que par rapport à la musique qu'on réalise, je trouvais plus intéressant de faire un cheval qui va un petit peu de l'avant.
Donc une tête bleue, un corps jaune et une queue rouge, autrement dit les trois couleurs primaires?
Exactement, c'est une autre symbolisation du chiffre 3 qui est très présent dans l'album, d'une part parce que on est un trio, comme vous l'avez compris, mais également par l'homonymie avec la ville de Troyes, et puis également le nombre de titres présents dans l'album, 12, qui est un des multiples.
Oui, il faut dire, Sylvain Félix, que le chiffre 3 a énormément d'importance, non seulement dans la guerre de Troie, si vous me passez le jeu de mots, mais aussi dans l'ensemble de la mythologie grecque.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je pense que ce chiffre est présent un peu tout le temps. C'était un peu le choix qu'on a fait. On a un peu fait des recherches là-dessus, tous ensemble. Et je pense qu'il est très représentatif dans l'album.
Et musicalement parlant, Nicolas Frache, que représente pour vous le chiffre 3?
Ah, c'est plein de choses. C'est un équilibre... c'est un déséquilibre qui crée de l'énergie presque. Quand on est trois musiciens, il y a toujours une majorité. Il y a toujours une direction à prendre. Quand on joue de la musique tout seul, bon, on joue de la musique tout seul, on est seul à mettre à bord. Quand on est à deux, il faut qu'il y en ait un qui cède. Par exemple, s'il y a une idée qui est proposée en improvisation, il faut que l'autre dise automatiquement oui. Quand on est trois, il y a comme un élément perturbateur, dans le bon sens du terme, qui permet de donner des nouvelles directions, en fait. Voilà, c'est surtout... C'est ça, pour moi, l'intérêt du trio, c'est que on est soit tous les trois, soit deux contre un, ou, enfin, pas vraiment contre, mais en opposition, ou en tout cas en force de proposition, et voilà. Et ça fait balancer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, les directions musicales, voilà.
Alors, ce qui est bien quand on écoute cet album d'Amphitrio, c'est qu'on peut donc aussi réviser sa géométrie. Série de Pythagore, c'est le titre de ce morceau. Alors Pythagore, ça nous dit tous forcément quelque chose, hein. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Vous voyez, messieurs, que j'ai un petit peu révisé, hein, le fameux théorème de Pythagore qui a fait le bonheur ou le malheur de plusieurs générations d'élèves. Là, justement, donc on retrouve donc ce triangle, ce chiffre 3. Alors, j'ai envie de vous demander, Pierre Baldi-Moulinier, dans ce morceau-là, qui joue le rôle de l'hypoténuse?
Alors, ça, c'est une grave question. Non, par contre, je me permets de répondre un tout petit peu à côté et surtout d'expliquer le titre qui s'appelle Les séries de Pythagore. C'est une d'une part, en effet, il y a cette idée de trio et de reprendre chaque fois des éléments par chacun des instruments, mais c'est surtout la série. C'est la première fois que j'écris un morceau sériel. Je me suis essayé à cet exercice qui est donc issu du mouvement dodécaphoniste initié par Berg. Voilà. Et donc en fait, on retrouve cette série qui est jouée par miroir, suivant les instruments, et puis en décalé sur l'ensemble de ce morceau très très court.
Oui, il y a plusieurs morceaux comme ça, extrêmement courts, hein, qui rythment un petit peu l'album. C'est un choix justement de varier les durées?
Oui, l'idée c'était de faire respirer l'album. Alors aujourd'hui, la plupart des gens n'écoutent que un titre, ou peut-être parfois même pas un titre en entier, mais il y a encore des personnes qui écoutent un album en entier, et c'est pour eux que j'ai écrit ces petites respirations à l'intérieur de l'album. Donc quatre petites respirations.
Alors, tout au long de l'album, les rôles changent, hein, au sein du trio, Sylvain Félix. Hein, Nicolas Frache nous expliquait il y a un instant que parfois on était en 2 plus 1. Comment est-ce que vous êtes répartis comme ça les rôles d'un morceau à l'autre?
Alors, en fonction du morceau, on a choisi qui prenait le rôle de basse ou le rôle de mélodiste ou le rôle d'accompagnateur. Et en fonction de ça, chacun prend sa place dans le morceau.
Mais ça se passe directement au niveau de la composition, ou bien c'est vraiment au moment où vous interprétez la partition que cette répartition-là s'est déroulée?
Les deux. Parfois, certains morceaux en fait ont tout de suite marché dans la formation choisie. Et en travaillant, on se rendait compte qu'on pouvait aussi proposer d'autres sonorités et d'autres sons. Parfois, moi, je change d'instrument au milieu du morceau. Et Pierre aussi, c'est ça.
Alors, le fil rouge de l'album, c'est la mythologie grecque, puisqu'il s'appelle, je le rappelle, Cheval de Troie, Pierre Valdimoulinier.
Oui, je trouve que c'est particulièrement inspirant depuis les grands auteurs beaucoup d'histoires ont découlé de ces premières histoires contées par Homère, et puis ça continue d'inspirer beaucoup d'artistes. Je trouve que depuis les Grecs, j'ai l'impression qu'on n'a pas inventé grand-chose. Non, c'est pas vrai, mais disons que c'est très inspirant en tout cas.
Mais alors concrètement, comment vous avez procédé? Vous avez relu un certain nombre d'épisodes de la mythologie pour ensuite transposer le récit en notes?
Alors un petit peu, oui, et puis il y a certaines mélodies en fait qui me rappelaient ces histoires, et de ces histoires, je ne sais pas comment je me suis inspiré de ces histoires, ou si les premières notes que j'ai écrites m'ont rappelé des histoires, et après en fait ça s'enchaîne un petit peu comme ça. Quand on écrit comme ça, on trouve c'est un peu comme une pelote de laine qu'on tire, on trouve quelques petites idées, puis petit à petit on tire le fil.
Mais on est dans le récit ou dans l'évocation ?
Ni l'un ni l'autre. J'aime pas trop être dans l'évocation, parce qu'après on est obligé de coller absolument à l'histoire, et c'est pas forcément ça laisse pour l'artiste finalement peu de place à l'imaginaire. Là j'ai préféré c'est vraiment en fait c'est pas de l'illustration, pardon. Ça évoque, mais ça n'illustre pas.
Les talons d'Achille par Amphitrio et ses trois interprètes qui sont avec nous aujourd'hui dans VMDN sur RFI. On note au passage le jeu de mots, hein. Les talons et l'évocation du cheval, et peut-être justement, on parlait d'évocation, justement de son hennissement, hein. Moi c'est comme ça que j'ai ressenti le morceau. J'ai raison ou j'ai tort, Pierre Valdimoulinier? C'est vous qui avez composé celui-ci?
Oui, c'est ça. C'est un jeu de mots. Je voulais m'amuser un petit peu avec ça. Et puis, c'est l'évocation. Le morceau, il est en deux parties. Et toute cette première partie, on peut peut-être parler de d'Achille quand il est plongé dans le Styx, je crois.
Le Styx, absolument, oui, le fleuve qui lui donnait donc cette forme d'immortalité.
Cette forme d'immortalité, sauf le talon par lequel il est assez fragile. Et après, donc la deuxième partie c'est une évocation beaucoup plus guerrière, la dernière partie, voilà.
Oui, il y a presque une dimension chasse, on a presque l'impression de corps de chasse à certains moments.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
Mais alors comment est-ce qu'on fait le hennissement? l'accompagnement d'un cheval, Pierre Baldi-Moulinier?
Avec un trombone, c'est assez facile. donc c'est toute cette première partie, elle est destinée justement à vraiment une ambiance un peu particulière où on laisse s'exprimer beaucoup la guitare. Et puis le saxophone et le trombone font une sorte de contre-champ, enfin une ambiance par-dessous qui laisse l'espace à la guitare.
Mais on a l'impression que quand vous composez, vous vous amusez, c'est vraiment le cas ?
Ah bah oui, j'espère. Enfin, en tout cas, j'espère en tout cas le faire percevoir. Oui, c'est sûr que c'est et puis c'est extrêmement plaisant de pouvoir, d'essayer des choses chez soi et puis dès qu'on les propose aux collègues, d'un coup, ça prend forme. C'est quelque chose de magique chaque fois.
Oui, parce que bon, les talons d'Achille, on a dit qu'il y avait le jeu de mots, mais j'ai lu aussi que vous aviez dirigé dans le temps un groupe qui s'appelait Blues de Vache, donc vous aimez aussi bien les animaux que l'humour.
Oula, vous remontez il y a très longtemps, oui, c'est ça, exactement.
Le morceau s'appelle Volution, c'est vous qui en signez la composition cette fois, Sylvain Félix, faut le dire à la française ou à l'anglaise d'ailleurs, Volution ou Volution ?
Ah, à la française ça marche bien.
À la française, Volution. Alors expliquez-nous le titre déjà.
Alors, Volution, c'est un motif un peu en enroulement, en spirale.
En volute.
En volute, qu'on peut retrouver en haut des colonnes, sur la partie du haut des colonnes grecques. Voilà.
Alors comment vous êtes parti pour nous composer cette partition ? Comment vous avez procédé ?
Alors moi c'est à partir de motifs mélodiques, moi c'est à partir de la mélodie que je compose. Et cette mélodie elle est un peu particulière parce qu'elle a une métrique assez compliquée, mais on s'en rend pas vraiment compte à l'écoute. Donc c'est ça qui m'a inspiré un peu ce côté infini qui tourne et qui ne s'arrête pas. Voilà.
Il y a une dimension très mathématique dans ce que vous nous décrivez là.
Un petit peu, oui, mais au départ, je pense que quand on compose, c'est surtout le motif mélodique qui exprime un sentiment ou une direction. Et c'est qu'après que les choses se mettent en place au niveau des métriques, au niveau de la forme générale.
Mais c'est vrai qu'on est dans des expressions très très variées, des ambiances aussi très variées. Oui. Nicolas Frachin, hein, parfois elles sont mélancoliques, parfois elles sont plus joyeuses, parfois elles sont guerrières, parfois elles sont très très minimalistes. Il y a une vraie diversité qui se dégage de l'ensemble des morceaux.
Ah ben, je suis content que ça transparaisse parce qu'effectivement on essaye de varier un maximum les. Enfin on essaye, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on prend énormément de plaisir à chercher des associations de timbres. Donc là on a entendu la clarinette basse, ce qui tout de suite par exemple induit de jouer à un volume beaucoup moins sonore, beaucoup moins fort qu'un saxophone, un ténor ou soprane. Donc là on peut aller chercher des nuances, on peut aller chercher des richesses de timbres. Enfin, des mariages de timbres qui sont d'une grande richesse. Moi, entre la guitare électrique, où je peux adjoindre pas mal d'effets, On peut, voilà, je joue beaucoup sur la reverb, un petit peu de délai, un petit peu d'overdrive, et je pense que ces couleurs-là donnent effectivement des sentiments, évoquent des images chez l'auditeur très variées.
Et pour vous, au final, quelle est la tonalité de l'ensemble de l'album ?
Ah, alors le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le lyrisme. C'est peut-être un petit peu en opposition aux mathématiques, mais pas forcément. Je pense que ça se combine très très bien. C'est le lyrisme, c'est une tonalité, la tonalité générale. Je crois qu'il y a un fort sentiment d'osmose qui doit, enfin j'espère, qui transparaît, puisque nous c'est ce qu'on cherche en jouant, c'est essayer de se fondre dans le son de l'autre, dans la dynamique de l'autre, et voilà, de proposer quelque chose de soudé, d'unifié.
Et donc il faut à la fois jouer et surtout écouter l'autre, les autres et l'ensemble de ce que donne le trio.
Eh bien, il me semble que ça fait partie des... En tout cas, en ce qui me concerne, les groupes que j'aime, c'est les groupes qui cherchent ça, qui cherchent la rencontre, voire la fusion, l'osmose. Je suis pas très intéressé par à l'écoute, en tant qu'auditeur, les groupes qui sont un amalgame de super solistes et qui chacun vont dans une direction sans forcément se nourrir des autres. Voilà. Là, je crois qu'on cherche vraiment... une direction commune.
Alors on va écouter un autre morceau de ce premier album, Astreios, qui a donné lieu au tournage d'un clip en forêt, un clip réalisé par Eric Soudan, et le morceau commence ainsi. Alors, on est à la radio, on n'a pas l'image, Nicolas Frache. Qu'est-ce qu'on entend là, à ce moment-là du morceau ?
Alors là, on entend le souffle, hein, le souffle. Mais derrière, on entend des bruits un petit peu mécaniques. C'est moi qui vais vous poser la question. Qu'est-ce que ces bruits vous évoquent, en fait ?
On a l'image. Oui, moi j'ai vu l'image, vous êtes en train de triturer les cordes de votre guitare avec des branches, c'est ça ?
Alors, pour les besoins du cinéma, effectivement, c'est ce que je suis en train de faire. Ça n'a pas été réalisé comme ça, mais ça, c'est la magie de l'enregistrement, évidemment. On est en train de... On flirte avec la musique bruitiste. Enfin, on flirte même allègrement avec la musique bruitiste. Effectivement, je suis en train de chercher une texture qui se marie avec le souffle, qui évoque le vent, tout en n'étant pas dans l'illustration pure et simple, parce que le souffle à la guitare, c'est très facile, il suffit de mettre très fort avec une distorsion très très forte et on va avoir un souffle d'ampli. Mais on a essayé de trouver, en discutant.
Et c'est vrai qu'il y a une dimension assez inquiétante, hein, finalement, quand on entend bien ce que vous jouez, et pourtant vous arborez une superbe chemise à fleurs. C'est votre chemise fétiche ?
C'est la chemise du groupe, oui.
Bon, parce que les deux autres, ils sont en noir quand même, hein, dans le clip, mais vous, vous l'arborez assez fièrement, hein.
On se refait pas.
Voilà. Merci pour cette précision. On écoute le morceau en entier cette fois et on continue d'en parler juste après. Astreios sur RFI par le trio Amphitrio. Alors mes connaissances en mythologie grecque ne sont pas complètes. Hein. Je connaissais Astrée, je connaissais plusieurs Astérios ou Astérion, mais pas d'Astreios. Alors je suis allé enquêter, y compris du côté de mes connaissances grecques, mais j'ai pas réussi à avoir la réponse. Alors vous nous expliquez, Sylvain Félix ?
Alors Pierre, tu pourras peut-être mieux répondre que moi.
Je vais prendre la main. Non, en fait, on dit Astreios. Astreios, qui est, je crois, un des dieux du vent, qui est un, je crois, plus ou moins apparenté à un titan. Enfin, c'est un fils du titan Krios. Voilà. Et qui a eu des enfants qui sont Borée, Zéphyr, voilà, les autres dieux du vent.
Donc on est dans les éléments naturels. La nature, c'est une source d'inspiration pour la composition de ce morceau ?
Pour celui-là, mais comme pour beaucoup, oui, ça fait partie des. C'est ce qui nous entoure, donc on est inspiré par tout ce qui nous entoure. Et entre autres la nature, j'ai la chance d'être dans un. Non pas en ville, mais dans la nature, donc voilà, ça fait partie des. Et puis surtout, j'ai eu la chance aussi de voyager en Grèce l'année dernière, donc comme le groupe est assez récent, il a un an et demi, mais beaucoup des morceaux qui sont sur cet album ont été composés peu de temps après mon voyage en Grèce.
Alors, il y a un autre clip que l'on peut découvrir sur le net, et là, on est en terrain beaucoup plus connu pour moi, en tout cas. Écoutons La Marche du Minotaure. Et là, le clip a été tourné dans un champ. Hein. Cette fois-ci, on est en couleur. On retrouve d'ailleurs la superbe chemise à fleurs de Nicolas Frache qui est rouge. Et on découvre finalement un minotaure extrêmement contemporain, Pierre Baldi-Moulinier. Vous nous expliquez un peu la scénarisation du clip ?
Alors, ça s'est fait de manière un petit peu, aléatoire. Il se trouve qu'on était dans un studio en Haute-Loire et puis on a eu peu de temps, comme souvent, pour réaliser les clips, et donc on est allé pas très loin de ce studio, et on a eu la chance, quand on a tourné ce clip, d'avoir des phénomènes de d'éclairage et de nuages, des contrastes dans le ciel extraordinaires. Et au moment où on a tourné, il y a un paysan qui est passé avec son petit tracteur, et voilà, ça nous a donné l'idée de le mettre sur le clip.
Voilà, c'est assez réussi, effectivement, un nouveau petit clin d'œil. C'est important le visuel dans ce projet Cheval de Troie, la musique ne se suffit pas à elle-même ?
Si, je pense qu'elle se suffit elle-même. Il se trouve que, par contre, on est de plus en plus dans une génération où on écoute malheureusement de moins en moins la musique, mais on la regarde. Mais du coup, on s'adapte. Après, c'est aussi un jeu pour nous. On ne fait pas par défaut, mais par envie aussi. C'est-à-dire que c'est intéressant de trouver l'image juste par rapport à la musique qu'on crée.
Merci beaucoup Pierre Baldi-Moulinier, Sylvain Félix et Nicolas Frache d'avoir été avec nous sur RFI. Le premier album d'Amphitrio, Cheval de Troie, à découvrir en téléchargement. Le problème quand un premier album est sorti, c'est qu'on se demande s'il va y en avoir un second, voire un deuxième. C'est aussi le cas, Pierre Baldi-Moulinier ?
Ah ben, on souhaite que l'aventure continue, ça c'est sûr. Pour l'instant, on sort à peine le nouvel album, donc on va le laisser vivre un tout petit peu. On espère pouvoir le jouer sur scène, et malgré la situation actuelle qu'on connaît, qui est compliquée pour nous. Mais en tout cas, on va déjà faire vivre cet album et réfléchir bien sûr au suivant.
Merci beaucoup à tous les trois. Très bonne journée.
Merci. Au revoir.
Merci. Merci beaucoup. Au revoir.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avant même que le coronavirus ne mette les systèmes de santé du monde entier à rude épreuve, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, avait nommé 2020 année du personnel infirmier et des sages-femmes, une décision prise en partie pour coïncider avec les 200 ans de la naissance de Florence Nightingale, la pionnière de la science infirmière. Les enseignements de cette Britannique, qui a vécu de 1820 à 1910, restent toujours très utiles aujourd'hui. Le musée éponyme dans les locaux de l'hôpital Saint-Thomas, au sud de Londres, lui dédie d'ailleurs une exposition spéciale, l'occasion de revenir sur son parcours avec notre correspondante Marie
Billet. Florence Nightingale apprend aux enfants comment se laver les mains. Cette Florence est une actrice, bien sûr, attachée au musée. Mais la vraie Florence est l'une de celles qui a mis l'hygiène au centre de la pratique de la médecine, grâce à son expérience pendant la guerre de Crimée notamment. Pourtant, explique la fausse Florence, elle a failli ne jamais pouvoir mettre sa vision à l'épreuve.
Nurses weren't always paid in money. They were paid in alcohol, like gin.
Les infirmières étaient souvent payées en alcool avec du gin et se prostituaient aussi parfois. Je venais d'une famille riche qui ne voulait pas que j'entre dans cette basse profession. Ce n'est qu'à 31 ans, quand j'ai été considérée comme trop vieille pour me marier, que j'ai pu me former.
Et rapidement, grâce au contact de sa famille avec le gouvernement, Florence Nightingale a pu partir en Crimée avec une équipe de 38 infirmières. Leur mission, réduire le taux de mortalité des soldats. Dans les vitrines de la salle du musée dédiée à cette période, on voit notamment un exemple d'uniforme porté par ces femmes. Un tablier blanc, une nouveauté à l'époque, et une sacoche, avec brodé dessus « Hôpital de Scutari ». Même si le mot « hôpital » n'est pas vraiment approprié, dit Melissa Chatton, commissaire de l'exposition.
Quand elles arrivent, elles voient des soldats allongés par terre dans leurs propres souillures. Ils meurent en grand nombre. Alors son équipe se met à tout nettoyer, des choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui, mais qui étaient révolutionnaires à l'époque.
Melissa Chatton montre ensuite une lanterne turque en accordéon qui trône au milieu de la pièce. Florence Nightingale est connue comme la dame à la lampe.
Elle l'utilisait pour faire ses rondes de nuit. Dans les lettres des soldats blessés, on peut lire qu'ils étaient rassurés en entendant ses pas pendant la nuit. C'est depuis ça qu'on a des rondes de nuit dans les hôpitaux.
Florence Nightingale n'est restée que 2 ans en Turquie, de 1854 à 56, et quand elle revient, elle est une star. John Charles Cross est un descendant d'un de ses cousins germains.
À son retour en Angleterre, elle arrive sous un faux nom, Mademoiselle Smith, parce qu'elle ne voulait pas de comité d'accueil. Elle avait vraiment gagné en notoriété durant la guerre, car les nouvelles des horreurs parvenaient rapidement. Et elle était l'héroïne qui avait sauvé la situation. Elle est donc rentrée en catimini, en train et en poney.
Si Florence Nightingale tenait à rentrer incognito, c'est notamment parce qu'elle voulait continuer à réformer la santé en Angleterre, explique Melissa Chatton.
Derrière vous, dans cette vitrine, il y a un livre ouvert à la page d'un diagramme. C'est un ouvrage qu'elle a publié sur le taux de mortalité dans l'armée britannique pendant la guerre de Crimée. Vous voyez tout ce bleu ? Il représente les soldats qui sont morts, mais qui auraient pu survivre dans d'autres conditions. Le gouvernement est choqué. Et ça permet à Florence de montrer qu'il faut changer les choses en Angleterre aussi.
Elle crée donc une école dans l'hôpital où se trouve aujourd'hui le musée. Elle codifie les conditions d'hygiène, sauve la réputation des infirmières. Juste à côté de la réplique du lit dans lequel elle est décédée en 1910, il y a un vieux gramophone. C'est la vraie Florence qu'on peut entendre cette fois dans cet enregistrement effectué en 1890. Quand je ne serai même plus un souvenir, juste un nom, j'espère que ma voix perpétuera le grand travail de ma vie.
Reportage de Marie Billon pour VMDN, le journal dans une poignée de secondes sur RFI. On se retrouve demain. Prenez soin de vous et vous m'en direz des nouvelles.